France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Dans ma série de chefs à remettre au premier plan, voici un Allemand qui compte pour moi vraiment parmi les tout grands. C'est Rudolf Kempe, né à Dresde en 1910, qui a commencé par le hautbois, ce qui fait de lui un des rares grands maestros issus des instruments avant. Il est d'ailleurs tellement doué qu'à 18 ans, il entre à l'orchestre de Dortmund et surtout, à 20 ans, il est hautbois solo du Gewandhaus de Leipzig. Là, il joue sous la direction de Furtwängler, Walter, Klemperer, Busch. Lui qui s'intéresse à la direction, c'est très inspirant. Et puis arrive le coup classique. Pendant une répétition, le chef veut aller entendre comment ça sonne depuis le fond de la salle. Il demande à quelqu'un de diriger pendant qu'il s'éloigne. Kempe se propose. Et c'est tellement convaincant que 15 jours après, il dirige déjà son premier opéra et décide de quitter l'orchestre pour la direction. En 1949, il revient dans sa ville natale de Dresde. Mais cette fois, c'est pour prendre la direction de la Staatskapelle, qui fut tout de même l'orchestre de Wagner et de Weber.
Thank you.
l'ouverture d'Oriente de Weber, nous sommes en 1949, Dresde est en ruine, mais l'opéra et son orchestre, la merveilleuse Staatskapelle que Wagner appelait la harpe enchantée, remettent très vite sur pied une saison lyrique et musicale. Rudolf Kempe, qui dirigeait à l'instant, a 39 ans quand il y est nommé directeur musical. Jusque-là, il avait eu un parcours classique, répétiteur, Kapellmeister. Rien que dans sa première saison, il dirige Le Freischütz, Carmen, Les Noces de Figaro, Arabella et Madame Butterfly. Vous voyez, il faut être opérationnel tout de suite. Il avait été incorporé dans l'armée en 1942, mais heureusement, il a échappé au front de l'Est, démobilisé pour raison de santé, et on le retrouve ensuite chef à Weimar, par exemple, où il est le second de Hermann Abendroth, dont je vous parlais au début de ma série sur les chefs oubliés. Et c'est là qu'arrive l'appel de Dresde. À Dresde, il ne reste que 2 ans, car c'est le moment où la zone d'occupation soviétique devient la RDA et il préfère vivre à l'ouest. Mais il reviendra souvent quand le rideau de fer s'entrouvrira, au moment par exemple où l'éditeur phonographique de RDA passera un accord avec EMI pour réaliser des disques pour le marché occidental. C'est le début des années 70 et c'est dans ce contexte que l'on doit à Rudolf Kempe une des plus grandes réalisations de l'histoire du disque, l'intégrale de l'œuvre symphonique de Richard Strauss. Et c'est un modèle de direction straussienne.
Thank you.
Le début d'une vie de héros, Rudolf Kempe, Richard Strauss, bien sûr, pour la musique, la Staatskapelle de Dresde pour l'orchestre, tout est du même niveau hein, dans ce coffret Kempe-Dresde-Strauss. On dit toujours qu'il est facile de faire sonner la musique de Strauss. C'est à la fois vrai et pas vrai. C'est facile d'y faire de l'effet. Mais alors, le risque est grand de devenir tapageur ou alors massif. C'est beaucoup plus difficile d'être à la fois puissant et clair et de rester élégant. Et Kempe a précisément réussi ce tour de force, vous venez de l'entendre. Une fois quitté Dresde, on le trouve brièvement à la tête de l'opéra de Munich qui a aussi été détruit dans les bombardements. Et puis les années 50 marquent le début de la carrière internationale. Il dirige le Ring de Wagner à Covent Garden à Londres en 54, ce qui lui ouvrira les portes de Bayreuth, toujours pour la tétralogie, en 1960. On l'a un peu oublié parce que les grands wagnériens de l'époque étaient Böhm, Knappertsbusch, Karajan. Et puis, il faut dire que Kempe ne se met pas en avant. C'est un homme modeste, discret, pour qui le compositeur passe avant l'ego du chef. Eh bien, son Wagner a les mêmes qualités que son Strauss. Pas de pathos, aucune lourdeur, ce qui lui permet de réussir au disque peut-être le meilleur Lohengrin de l'histoire. Avec le Philharmonique de Vienne, on est en 1964. La fin du deuxième acte de Lohengrin de Richard Wagner dans la version poétique et fervente de Rudolf Kempe en 1964. La carrière de Kempe sera régulièrement interrompue par des problèmes de santé, mais en 1961, il est tout de même nommé à la succession de Sir Thomas Beecham au Royal Philharmonic à Londres. En 65, c'est la Tonhalle de Zurich qui l'appelle et en 67, le Philharmonic de Munich. Il faut vous dire que Kempe était très aimé des musicien d'orchestre, d'abord parce qu'il avait une technique de baguette précise, une méthode de répétition à toute épreuve, mais qu'en plus, au concert, il obtenait un jeu très engagé. Il était de ceux qui ont commencé à rompre avec le mythe du maestro dictateur. C'était un homme simple, courtois, presque timide, qui parlait aux musiciens d'orchestre comme à des collègues et non comme à des sujets. Dans les notices biographiques, on lit parfois Kempe représentant de la grande tradition allemande. En fait, ça ne veut rien dire. Vous l'avez entendu, il dirigeait Wagner et Strauss de façon assez moderne. Et surtout, il avait, dans la musique du XXe siècle, une virtuosité que tous les chefs de tradition allemande n'avaient pas forcément. Je pense par exemple à un de ses plus beaux enregistrements, la Sinfonia da Requiem de Benjamin Britten.
Thank you.
La direction exemplaire de Rudolf Kempe dans la Sinfonia da Requiem de Britten. Je vous disais que Kempe n'était pas un despote, mais un homme du travail d'équipe. J'ai une anecdote qui illustre parfaitement cela. À Munich, il est en train de répéter la messe glagolitique de Janáček, une œuvre rythmiquement complexe. Ça ne marche pas, le chœur n'est pas en mesure. Alors le chef des chœurs ose aller le voir et lui dit « Voilà, quand j'ai préparé le chœur, j'ai décomposé telle mesure à 5 et telle autre mesure à 8. » Et là, Kempe lui dit « D'accord, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me montrer vos battus et je vais faire les mêmes. Ce sera plus facile pour moi que pour le chœur de s'adapter. » Eh bien, le chef de chœur affirme que s'il avait demandé ça à Kubelik ou Jochum, il l'aurait envoyé balader en disant « Mais vous voulez peut-être m'apprendre mon métier ?» Avec le philharmonique de Munich, cet homme svelte, élégant, avec les petits yeux enfoncés dans les orbites, qu'était Kempe, a eu le temps de faire des enregistrements et des tournées. J'écoutais un live très étonnant de la 8e symphonie de Dvorak, donnée au Proms de Londres le 9 septembre 72. J'étais étonné par une sorte de dureté qu'il donnait à cette symphonie, d'habitude plutôt souriante. Eh bien, ce n'est qu'après l'écoute que je suis allé lire le texte de pochette écrit par l'ami Rémi Louis et que j'ai appris que ce concert suivait de 3 jours la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich. étonnamment haletante, presque fébrile, cette huitième de Dvorak avec l'orchestre philharmonique de Munich dirigé par Rudolf Kempe à Londres en septembre 1972. Alors pourquoi Kempe n'est-il pas plus connu? À cause de sa discrétion sans doute, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'il est mort à 66 ans seulement en 1976 et c'est un âge où pour beaucoup de chefs d'orchestre, tout commence. C'est Marie Groux qui réalisait cette émission, Pierrick Charles qui la mixait, Soisic Noël en est l'attaché de production, et moi, je vous donne rendez-vous demain à midi sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.